c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, où j'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Le sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Dans un instant, eh bien, nous allons accueillir celui qui a été couronné de succès au dernier festival de Luchon, qui a décroché le prix du meilleur documentaire, Olivier Vlodarczyk, pour son documentaire Maman Chanteuse, qui sera diffusé sur France 3, Hauts-de-France, jeudi et dès vendredi sur France.tv, donc accessible à tout le monde. Nous aurons également le plaisir de recevoir en fin d'émission celui que vous adorez, Stéphane Plaza, sera notre invité exceptionnel. On aura le plaisir de recevoir également Franck Brett, le réalisateur de Comme mon fils, qui sera diffusé ce soir sur TF1, avec Jordan Delassus qui joue le petit Charlie ainsi que Lizzie de cette fiction. Marie-Josée Croze, également invitée exceptionnelle aujourd'hui de Chute, on écoute la télé. On va évoquer évidemment la deuxième semaine de Prométhée sur TF1. Et puis on va parler également de la fiction Le Village des Endormis avec le réalisateur Philippe Dajou et Stéphane Fresque. Alors c'est parti.
L'invité d'honneur de la semaine.
On va parler documentaire et une belle histoire. Maman Chanteuse, ça sera diffusé jeudi soir sur France 3 Hauts-de-France à partir de 22h40. Vous pouvez y avoir accès depuis n'importe quel télé TNT en cherchant directement évidemment France 3 Hauts-de-France. Et ça sera en replay dès demain sur France.tv. Olivier Vlodarczyk est notre invité pour nous parler de Maman Chanteuse. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Maman Chanteuse, c'est une déclaration d'amour à ta maman. Raconte.
C'est une déclaration d'amour, oui. C'est surtout un cadeau que j'ai voulu lui faire. J'ai voulu lui offrir la possibilité de remonter sur scène après 10 ans d'arrêt. Elle a eu des petits problèmes de santé, des petits problèmes. Voilà, elle est partie à la retraite, mais on part jamais à la retraite en fait de quand on est artiste. Ça fait 25 ans que je la filme, donc je lui ai proposé de remonter sur scène avec beaucoup d'émotion. Elle l'a pris ça en disant que c'était. Elle m'a même dit je pourrais mourir tranquille le plus tard possible, mais je pourrais mourir tranquille. Et donc à travers ce concert qu'on prépare avec elle, je retrace sa carrière de chanteuse populaire. Elle a chanté Brel, Piaf, Lama, Aznavour, et elle a écrit ses propres chansons. Elle avait fait un album que j'avais produit d'ailleurs à l'époque. Et donc, à travers ce périple, et c'est un an et demi qu'on a passé. Je remonte dans les années 70 quand elle avait les balles, quand elle était dans les balles populaires. Encore avant, dans les années 60, où elle avait fait Télé Dimanche, qui était une émission qui est le premier télécrochet avant The Voice, présenté par Roger Lanzac. Elle a eu 4 fois d'affilée, les gens l'ont plébiscité pendant 4 fois, et grâce à ça elle a signé chez Philips. Elle a interprété une chanson de Francis Lai, et ensuite elle a chanté un des thèmes de Meyerling avec Catherine Deneuve et Marc Sharif. Donc elle était au sommet, et à ce moment-là elle a plutôt décidé de rester dans sa région et de rester dans son groupe qui faisait un carton. C'était le groupe du Nord, il s'appelait Les Comètes, et ils étaient jusqu'à 20 membres du groupe, donc c'était très fort. Et donc tout ça au fur et à mesure, et au fur et à mesure de la création du spectacle, je reviens sur ce qu'elle a été à travers mon regard de fils.
Et tu racontes son histoire par la même occasion, du coup.
Voilà, au début je dis je vais vous raconter une histoire, notre histoire, qui est effectivement la relation d'une mère et de son fils, mais c'est universel en fait. Le retour d'un certain nombre de projections là me conforte dans l'idée que ce que j'ai réussi essayé de faire, c'est vraiment de refaire ressentir l'amour maternel et l'amour filial, et à travers aussi sa façon enfin son état de chanteuse de régionale, ça raconte énormément de gens que dans son cas, il y a des gens qui font du théâtre de manière amateur, de la chanson. Elle était professionnelle, hein, mais ça retrace des centaines de milliers de personnes qui sont artistes et qui à un moment donné ont toujours rêvé de gloire, mais elle a pas voulu faire de concessions. Elle a jamais fait de concessions, donc c'est en partie pour cette raison que elle est restée chanteuse assez réputée dans le Nord, mais à ce niveau-là.
Alors par rapport à ce que t'as pu produire déjà, on a eu l'occasion de te recevoir il y a quelques années justement pour du documentaire, là c'est une histoire très personnelle que tu racontes. Et moi Olivier, la première chose que j'ai envie de te demander, comment elle a réagi?
En fait, elle savait que je voulais faire un film sur elle parce que je la tanne depuis 25 ans. Je la filme régulièrement dans tous ces événements en tant que militante, en tant que chanteuse, en tant que maman, en tant que grand-mère. Voilà, je l'ai filmée vraiment sur une période de 25 ans. Pas pendant 25 ans, mais sur une période de 25 ans.
Alors, on me tenait avec ton petit caméscope partout où elle allait.
Ouais, mon petit. Bah, en fait, ça a évolué. J'ai commencé par un caméscope, puis après, ça a été une plus grande caméra. J'ai évolué avec la technologie en fait. Ce qui est vraiment frappant, c'est que quand je lui ai annoncé, elle était soufflée en fait. Elle s'y attendait évidemment pas. Et moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais non plus, hein, parce que je suis producteur de documentaires, j'ai été réalisateur pendant une vingtaine d'années, mais produire un spectacle, je savais pas faire ça non plus. Donc on a réussi. J'ai été chercher des amis guitaristes, batteurs, le guitariste qui l'accompagne sur la scène, c'est le guitariste de Julien Clerc, de Renaud, de Lavilliers pendant 20 ans. Le batteur, c'est le batteur de Zazie, de Dao, des graisses vertes. Donc il y avait cette ossature forte de gens qui ont l'habitude de la scène au niveau quotidien.
Oui, t'as pas fait les choses à moitié.
Bah, j'ai essayé de lui offrir tout ce que je pouvais, de plus de ce que je pouvais à mon niveau. Et puis c'est une histoire de famille aussi. Maman chanteuse, c'est une chose, mais toute ma famille est chanteur, musicien, guitariste, bassiste, pianiste. Donc ce film-là raconte ça aussi. C'est-à-dire que c'est un amour évidemment filial, mais familial, amical. Voilà, c'est une ode à la vie familiale.
Imagine la bouffée d'émotion qu'elle a prise. Ça lui a donné envie de continuer, d'y retourner ou pas?
Bien sûr, ça lui a donné envie de continuer parce que évidemment, c'est la chanson, c'est sa vie, donc évidemment qu'elle a envie de continuer. Là, c'est de mon côté. Là, je vais faire une petite pause. Ma femme aussi, elle a besoin de faire une petite pause parce que forcément,
belle maman était un peu envahissante.
Un tout petit peu, légèrement, gentiment, mais légèrement. Mais j'ai en tout cas l'ambition de faire un long métrage documentaire après.
Et bien vous allez découvrir en tout cas Maman Chanteuse, c'est jeudi soir. En deuxième partie de soirée, il faudra vous caler sur la fréquence de France 3 Hauts-de-France où vous pourrez découvrir aussi Maman Chanteuse pendant un mois sur le replay de France.tv et ça dès vendredi. Donc vous pourrez évidemment aller découvrir ce très beau documentaire signé Olivier Vlodarczyk. Merci beaucoup Olivier. On termine par tes projets ?
Oui, je suis en train de finaliser avec un réalisateur qui s'appelle Laurent Rodriguez une version longue pour le cinéma qui est déjà passée à la télé, qui va passer, et donc je cherche en ce moment un distributeur. Je suis en pourparler là. C'est sur l'histoire de 4 jeunes Syriens qui sont en France depuis 3 ans. Donc depuis 1000 jours, ça s'appelle 1000 jours pour la télévision, et ils sont là pour autour d'une table et en flashback sur 3 années pour réfléchir sur la notion d'identité, sur ça, c'est quoi, ça veut dire quoi être réfugié, parce qu'on voit les temps de Quechua ou les plages de Lesbos, mais on voit jamais comment les réfugiés s'enracinent, se sédimentent. Et quand il m'a proposé ce projet, Laurent, j'ai vu là pour la première fois, je me suis projeté en me disant ça peut m'arriver en tant que Français, si jamais un jour il y a une guerre, je pourrais me projeter. Et puis j'ai vu mon grand-père, parce que je suis d'origine polonaise, et à travers leur histoire, je pense qu'on peut aussi se projeter nous une grande partie de la population qui est de génération polonaise, arabe, portugaise, peu importe. Et donc c'est une version d'1h30 qui vient de se finaliser là. Et puis sinon au niveau des projets, j'ai une série qui est en préparation sur les experts judiciaires, sur les faux aveux. Et l'autre film que je suis en train de préparer avec un autre réalisateur qui s'appelle Jean-Christophe Brizard, c'est sur les notices rouges. C'est tous les États ont la possibilité de donner un nom qu'ils considèrent comme terroriste. Et c'est Interpol qui reçoit ça. Et il y a un dysfonctionnement assez important au sein de cette institution parce qu'ils n'ont pas assez de moyens et il y a beaucoup de trous dans la raquette à ce niveau-là. Donc on va raconter que les Chinois, les Russes mettent beaucoup de notices rouges pour récupérer les opposants et pour les extrader. C'est un gros projet, ça s'appelle Red Notice.
Et on parle pas de tennis pour la raquette.
Jeudi, soirée spéciale sur France 3. Chanteuse talentueuse, Marie-Laure fait ses adieux à la scène. Son fils lui rend hommage dans Maman Chanteuse.
Le rêve que tu as depuis 10 ans, je vais te le réaliser. Tu vas remonter sur scène.
Un documentaire primé au Festival de Luchon. Puis revivez le dernier concert de Marie-Laure, Ma vie en chanson. Capté au Théâtre Municipal de Béthune en octobre dernier.
Juste écouter, ne pas bouger.
Dans un instant, on évoque nos coups de cœur télé consacrés à Comme mon fils, au village des endormis et à Prométhée. Alors surtout, ne bougez pas, Stéphane Plaza en fin d'émission. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé est consacré à la fiction Comme mon fils qui débarque sur TF1. Quel bonheur pour nous de recevoir aujourd'hui le réalisateur Franck Brett. Bonjour Franck.
Bonjour.
Et le héros de ce film, Jordan Delassus, qui est avec nous. Bonjour Jordan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu y incarnes Charlie et vous allez complètement craquer pour ce petit bonhomme. Certainement autant que Tomer Sisley, mais on va déjà un petit peu planter le décor. Franck, déjà, comment est né ce projet? Comment il a été monté? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive là, maintenant, sur TF1?
Alors ce projet, donc déjà, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. Donc il y a eu d'abord un livre, donc écrit par les protagonistes, qui a été adapté en scénario, tout d'abord pour le cinéma. Pendant 3-4 ans, ça a été un peu compliqué et c'est finalement TF1 qui a eu un coup de cœur pour ce projet, qui nous a fait confiance pour le faire.
C'est génial, ils ont tout de suite été séduits.
Assez vite, oui. Assez vite. Mais on a quand même dû le défendre parce que c'est un film qui sort un peu de ce qu'ils font d'habitude, on va pas se mentir. Il est assez original. Moi, c'est ça qui me plaisait. Ça me fait penser aux histoires des films des années 90 que j'adorais, ces films d'aventure. Donc ça sort un peu de ce que fait TF1, ça fait en plus vraiment du bien. Et voilà, moi, c'est ça qui m'a séduit dans le film.
Ouais, parce que c'est une histoire humaine avant tout. Parce que Tomer Sisley se voit obligé de partir en cavale pour les raisons que vous découvrirez en voyant le film, évidemment. En rentrant chez lui, il découvre qu'il y a quelqu'un qui y est avec un petit garçon. Et cette maman va abandonner ce petit garçon assez lâchement. Et donc, il va se retrouver justement avec Charlie et de l'emmener en cavale avec lui. Voilà un petit peu l'histoire de base pour planter le décor. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est tout ce que t'as pu faire passer comme émotion, Jordan, à travers les silences, des fois, à travers le regard. Ça, c'était assez bluffant. T'avais déjà fait de la comédie avant ou pas?
Oui, j'avais fait deux tournages, mais c'était des petits rôles. Je passais dans des petits passages. J'avais des acteurs qui étaient plus dans le film que moi, beaucoup plus.
Alors que là, rôle principal quand même, avec Tomer Sisley, tu peux te la péter à l'école, là.
Moi, je veux pas trop me la péter à l'école parce que je veux pas faire mon métier d'acteur. Enfin, je trouve que dire que je fais des trucs et tout, c'est un peu bizarre pour moi. Et après, mes potes, ok, ils vont me dire que je suis une grande star et tout, mais moi, je fais que de leur répéter. Non, les gars, je fais juste des tournages, mais c'est pas pour ça que je suis une grande star. Et ma mère, elle me le dit aussi, et voilà.
Elle te remet les pieds sur terre.
Du coup, voilà.
Tomer, si c'est, il est comment?
Au début, quand je le connaissais pas, c'était un peu...
Impressionnant.
Oui, c'est ça. Et là, après, à force de faire des scènes avec lui, de jouer avec lui, c'était un peu drôle. C'était une expérience touchante pour moi et cool. C'était un peu drôle de jouer avec lui et...
Tu t'es bien amusé.
Oui. Et de mieux en mieux, j'ai fait sa rencontre et ça s'est bien passé.
Oui, parce qu'en fait, en finale, quand tu vas sur un tournage, tu fais un peu comme avec les copains, tu vas jouer.
Oui.
C'est ça qui est chouette.
C'est un peu comme une rencontre avec un nouvel ami.
Voilà, exactement. Franck, il est incroyable. Il est hallucinant.
C'est bien dit, c'est parfaitement dit, je l'aurais pas dit mieux.
Tu as trouvé comment, Franck? Il y avait combien d'enfants castés pour arriver à dégoter Jordan?
J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense qu'au début, il y en a à peu près 800. Et on a reçu beaucoup de candidatures dans la France entière. On a pris une directrice de casting qui est spécialisée dans les enfants, Sylvie Brocheret. Donc elle a casté par exemple tous les enfants des choristes ou Belle et Sébastien. Donc elle est spécialisée dans les enfants et elle allait chercher partout dans la France entière, donc autant dans les agences que du casting sauvage, donc n'importe quel gamin. Moi, elle m'en a proposé une cinquantaine. Et j'en ai vu en vrai 10, les 10 finalistes qu'on a testés avec Tomer. Voilà, donc
c'était une évidence tout de suite.
Oui, franchement, sur moi, je voulais vraiment en plus qu'il ait 6 ans. Donc on essaie souvent, quand on a un enfant de 6 ans, de prendre un enfant un peu plus âgé, parce qu'on se dit bon, il va être plus mature, il va mieux comprendre. Mais en fait, Jordan comprenait très bien ce que je lui disais au casting. Il comprenait l'importance des scènes, il comprenait la direction qu'on lui demandait. Il arrivait à adapter le jeu. Et je me suis dit, c'est avec lui que j'ai envie de travailler. C'est avec lui que j'ai envie de faire ce film. C'est mon Charlie, en fait.
C'est beau ce qu'il dit, Franck, là.
Oui. Bah, je suis touchée, je suis content que tu penses ça de moi. Et j'espère que les gens ils vont se dire que le film il est bien, quoi.
Oui, bien sûr qu'il est chouette le film. On écoute un extrait comme mon fils, ça arrive sur TF1. Allez, on écoute et on revient juste après. Justement avec Jordan de la Suisse et Franck Brett qui sont nos invités aujourd'hui.
Je suis inconditionnel. Si je fais une connerie, que je me fais serrer, je prends cher.
C'est un plan en or, franchement, on va se faire un max.
Arrêtez-vous!
Elle est où ma mère?
Prends tes affaires, tu viens avec moi.
Ton Valderas est officiellement en cavale.
C'est votre fils?
Tu les as volés?
Non, je sais pas qui t'a raconté ça, mais je suis pas un voleur.
T'es quoi alors?
Tes coutumières sont formidables. Chris pouvait lui offrir une vie normale.
Tu vas revenir?
Inédit, comme mon fils, avec Tomer Sisley. Sur TF1.
On y retourne comme mon fils, vous l'avez compris, ça débarque sur TF1. Magnifique fiction avec un très joli casting en plus que l'on y retrouve. On peut aussi bien sûr parler de Lizzie Brocheret, mais il y a plein de beaux mondes, hein, Franck Brett.
Il y a du monde, on a un super casting et ils avaient surtout des rôles intéressants à jouer. Il n'y a pas de rôle plat en fait. Il y a une maman bipolaire qui abandonne son enfant pour le protéger dans un moment de lucidité.
Oui, parce qu'il faut dire qu'elle abandonne quand même aussi, c'est vraiment pour le protéger d'elle finalement.
La bipolarité c'est très dur à traiter et surtout c'est pas le sujet du film, donc il faut arriver à le montrer assez vite et c'est aussi en fonction de ce que le vrai Charlie Ludovic m'a raconté. Après c'est l'histoire d'un père qui veut pas de fils, c'est l'histoire d'un fils qui n'a pas de père et après il y a le personnage de Margot, je parle de Lizzie Brocheret, qui est une mère qui voudrait un fils mais qui ne peut pas en avoir. Enfin, il y a beaucoup d'histoires dans cette histoire.
Ouais, c'est vrai que ça traite beaucoup de sujets différents. Jordan, il y a des scènes qui t'ont impressionné ou pas?
Pas forcément. Y a eu des scènes, je trouve qu'elles étaient géniales, mais aucune qui m'a impressionné.
Tu dis qu'il n'y a aucune scène qui t'a impressionné, mais ça t'a pas impressionné quand il y a eu une explosion de 50 mètres de haut?
Non.
Non, ça t'a même pas fait un petit peu peur?
C'est une vraie, hein. c'est pas des effets spéciaux, juste pour que vous sachiez, mais à un moment, il ça pète, et c'est une vraie explosion, et c'est parti à 50 mètres de circonférence. Là, c'est une vraie explosion.
Ah oui, d'accord, pas trop d'effets spéciaux, c'est du réel, là.
Là, c'est du réel.
Bon. Et alors, Tomer, il t'a donné des conseils ou pas?
Il m'a dit des trucs qu'il faisait quand il joue, et ça, on peut dire que ça m'a aidé.
T'as suivi?
Oui, c'est ça.
Ah oui, ça te donne envie de refaire d'autres tournages ou pas?
Oui, ça me donne envie de refaire d'autres tournages.
Mais pour l'instant, l'école reste la priorité?
Non, mais c'est que parfois je rate des trucs que j'ai pas envie de rater. Donc, et là, je suis un peu en pause de tournage. Enfin, y a des projets, j'ai pas envie de les faire ou bah c'est que ils sont pas intéressants pour moi.
Donc tu fais ce que t'as envie et t'as bien raison.
Oui, c'est ça en fait.
Oui, tiens, ben voilà, il a bien raison. Et il est incroyable, Franck, hein. Franchement, c'est une pépite là.
Bah c'est pour ça qu'on l'a choisi.
Est-ce qu'il y a eu un moment de grâce que t'aurais à nous raconter, Franck, qui s'est déroulé pendant le tournage devant tes yeux, derrière ton combo? Le combo, c'est l'écran derrière lequel se cache le réalisateur, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Exactement. Bah, pour une, bah... Pour celle-ci, ce ne sera pas derrière le combo pour ma part, parce que j'étais en train de cadrer la scène, donc j'étais derrière la caméra à ce moment-là. Et non, ça a été la, je pense, la scène, la scène finale en fait. La scène finale. Bon, je peux pas en dire beaucoup.
Quand les téléspectateurs vont voir, ils vont comprendre au moins.
Exactement, mais cette scène finale, parce que elle est remplie d'émotions. Moi, j'ai beau avoir vu le film 800 fois entre le tournage, le montage et toute la post-production, c'est un moment qui me fait encore des petits trucs dans le ventre à chaque fois que je le vois. À chaque fois.
Est-ce qu'on pourrait imaginer, même si c'est inspiré d'une histoire vraie, est-ce que l'histoire est bouclée, ou est-ce qu'on pourrait imaginer une suite et que c'est une fin ouverte? On pourrait juste dire ça au moins à nos spectateurs.
Bah, si Ludovic était là, donc le vrai Charlie, il vous dirait qu'il y a encore plein de choses à raconter, parce que c'est dur sans dévoiler ce qui se passe dans l'histoire, mais le vrai Victor, qui est un braqueur, l'est resté encore très longtemps. Donc il y a des histoires, de prison, de sortie de prison, de récidive, de braquage. Donc en fait, c'est une histoire qui pourrait avoir une suite.
Qui pourrait, voilà, affaire à suivre. En tout cas, ça sera l'occasion de revenir et puis peut-être de rejouer, hein, Jordan?
Oui.
Tu serais d'accord, toi, pour faire une suite?
Oui.
Voilà, il fait ce qu'il a envie, il a raison. Bravo, merci en tout cas, Jordan. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. Comme mon fils, à 21h10 sur TF1, merci infiniment d'avoir été avec nous tous les deux.
Bah, je suis content.
Merci beaucoup et bon film.
On continue à parler de la fiction événement ce soir sur TF1. Ça s'appelle Comme mon fils, après Franck et Jordan. On rappelle d'ailleurs que la fiction a été primée au dernier festival de Luchon. On continue à en parler avec Lizzie Brochéry, qui interprète Margot. Bonjour Lizzie, merci d'être avec nous.
Bonjour Alain.
Ça nous fait plaisir de vous avoir, Lizzie. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé de beau depuis des années? Il y a eu Versailles, il y a eu tellement de choses, Lizzie, dans votre carrière qui se sont passées. Mais en tout cas, c'est un joli rôle aussi, celui de Margot, que vous interprétez ce soir, qu'on verra dans le deuxième épisode. Hein. Faut pas s'attendre à voir le personnage de Margot dans le premier. Mais soyez patient, Lizzie arrive.
Oui, elle arrive dans le deuxième. Ouais, j'aime beaucoup aimé, moi, Margot. Elle est très authentique, instinctive, voilà, franche. J'aime beaucoup.
Qu'est-ce qui vous a plu en premier, Lizzie, justement, dans ce rôle, dans cette composition?
Alors,
du personnage de Margot?
Avant le personnage de Margot, ce qui m'a touchée vraiment, c'est l'histoire vraiment d'amour, d'amitié entre ces deux hommes à différents âges, quoi. Voilà, ce braqueur et ce petit garçon. Et qui, contre toute attente, développe une tendresse et une affection. Voilà, donc ça m'a touchée. Ce qui m'a touchée aussi, c'était cette histoire vraie. C'est-à-dire que, voilà, le témoignage du petit garçon maintenant devenu grand, qui est d'ailleurs venu nous voir sur le plateau, je trouvais ça vraiment chouette, sa façon de raconter cette cavale. Voilà, donc tout ce petit package de road movie un peu improbable, je trouvais ça vraiment charmant. Et Margot, en fait, elle est touchée un peu par la même chose. Ce duo arrive un peu dans sa vie comme ça, par hasard, elle tombe sous le charme, quoi. J'ai aimé ce personnage qui faisait confiance à son instinct et qui cherche pas, voilà, même si tout ça a l'air un peu illégal, tout ça est un peu compliqué, tout ça, bon, bah voilà, elle ne fait pas les choses compliquées, elle plonge, elle ouvre les bras, et ça m'a vachement touchée.
Alors, je sais pas si c'est comme dans le livre, pour le coup, dans la vraie histoire, mais on peut même parler entre ce voyou et ce petit garçon et Margot d'un coup de foudre, en quelque sorte. On a vraiment l'impression, en tout cas dans le film, que c'est un coup de foudre.
Ouais, comme des âmes qui se rencontrent, quoi. C'est assez joli de voir ces petites propositions de la famille, de la tribu, quand nos parents, quand le monde vous ferme un peu les bras, quand vous sentez que c'est un peu en marge, un peu à côté, bah voilà, vous trouvez une autre tribu. C'est charmant, quoi. Comme Margot, je pense que c'est quand elle voit ce pirate là, ce braqueur au grand cœur, voilà, je pense qu'elle est, tout à coup il y a un souffle d'aventure qu'elle espérait même pas trouver dans sa vie, quoi, au jour le jour. Et donc il y a une sorte de reconnaissance des âmes. Ouais.
Il est incroyable, Jordan.
Ah, il est génial, ouais, Jordan. Ouais,
il était avec nous il y a un instant. On a l'impression de parler à une grande personne, hein. Là, il y a aucun souci, là,
ah,
franchement.
Oui, il est vraiment chouette. C'est tellement, moi, ça m'a fait vraiment, enfin, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu faire le projet. Comme c'est agréable aussi de tourner avec des enfants, d'avoir cette énergie, sur un plateau. Ah, bah, ouais, ça vous remet tout de suite à votre place, quoi. On peut pas se prendre trop au sérieux avec un enfant sur un plateau.
Oui, et puis partager l'affiche avec Thomas Sisley, quand même, il y a pire aussi. C'est vrai que là, franchement, ça crée un espèce de beau trio à l'intérieur de ce deuxième épisode ce soir.
Ouais, Thomas, j'avais déjà tourné avec lui il y a des années maintenant. Je crois qu'on avait calculé 10 ans. On avait fait un film qui s'appelait Nuit Blanche ensemble. Et on était devenus très amis. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et là, c'était très agréable de pouvoir le retrouver dans... C'était très simple et vraiment très agréable de pouvoir jouer avec lui. Ouais, vraiment chouette.
Alors on va découvrir plein de choses sur Margot, on va découvrir, on va pas le dire pour laisser la surprise aux téléspectateurs, mais on va découvrir quand même le métier de son ex-mari. Ça va pas vraiment avec ce voyou et ce petit garçon en cavale. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein.
Non, voilà. C'est tout ce qu'on va dire.
Exactement, on va laisser la surprise évidemment à nos téléspectateurs. Lizzie, les projets, qu'est-ce qui nous attend en 2023 avec Lizzie Brochéré? Cinéma, télévision, théâtre?
Alors, ben moi j'ai des séries qui sont sorties là, sur Canal+, la saison 3 de La Guerre des Mondes, j'ai sur la plateforme de Paramount, j'ai American Gigolo que j'ai fait là l'année dernière et qui est sortie, j'ai une mini-série qui s'appelle Fille de Feu, sur les procès de sorcellerie en 1609 au Pays Basque, celle-ci c'est une histoire vraie.
Ouais.
Peut-être pour Halloween.
Oui.
Et voilà, pour l'instant, je crois que c'est ça.
C'est déjà très bien.
Ouais, c'est pas mal.
Bon, ben merci après, en tout cas, Lizzie, d'avoir passé ces quelques minutes pour compléter effectivement la venue de Franck et de Jordan. J'imagine votre fierté, évidemment, d'avoir eu le prix au Festival de Luchon aussi.
Oui, le prix du public, c'est toujours le meilleur prix, quand même. Soyons honnêtes, c'est vraiment chouette, quoi. Ça veut dire que c'est le prix du cœur.
Ouais, c'est une belle récompense pour tout le travail.
Ouais.
Bon, merci beaucoup en tout cas Lizzie d'avoir été avec nous. On rappelle que Comme on fils c'est ce soir et c'est à 21h10 sur TF1 en deux parties. Vous allez pouvoir découvrir cette histoire vraie. Voilà, j'espère que vous êtes bluffés et puis aussi émus par cette belle histoire en tout cas qu'on va découvrir ce soir. Merci et à très bientôt Lizzie.
Au revoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et c'est l'événement sur France Télévisions cette semaine avec notre coup de cœur télé qui est consacré au film Le Village des Endormis, un film unitaire inédit produit par Pierre Sportolaro qui est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et puis réalisé de main de maître par notre ami Philippe Dajou qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Stéphane Fraisse également est avec nous. Bonjour Stéphane, merci de nous faire amitié d'être avec nous aussi.
Eh ben bonjour.
Alors, Le Village des Endormis, moi j'ai été très séduit par ce programme. C'est un thriller qui vous embarque dans une histoire qui démarre tout de suite par une cavale qui vous emmène dans une espèce d'endormissement, puisque en fait, les habitants d'un village ont tombé un peu à peu comme des mouches. Et il va falloir comprendre comment ça se fait qu'ils s'endorment comme ça subitement et qu'ils tombent dans des comas profonds. Le maire de ce petit village que vous incarnez, Stéphane, évidemment va être bien dans l'embarras, surtout que ça va toucher beaucoup de monde, et Lola Devers va tenter en tout cas de venir essayer eh bien d'enrayer cette machine. Qui a eu l'idée de départ? Est-ce que c'est bien teasé déjà, Pierre?
Ça me paraît fort bien teasé, absolument. Mais écoutez, l'idée de départ est venue de deux scénaristes. En fait, Frédéric Faul, une femme, et Alain Etévé, son compère, avec qui j'avais discuté en 2018. C'est-à-dire, ça remonte déjà, en fait. La jeunesse, il y a 5 ans sur ce film. J'avais rencontré des auteurs, en fait, qui voulaient bosser avec moi. Je leur avais dit, écoutez, moi, mon truc, c'est surtout de chercher du film de genre ou du film sociétal. Et à l'arrivée, ce qui m'a plu dans leur proposition, c'est qu'au fond, le genre, c'est-à-dire le thriller, croisait le sociétal, voire un peu le politique, parce que c'est ça qui m'a séduit dans cette idée, en fait, qu'on accompagnait ensuite Philippe, qui sont là, et puis Stéphane, les autres comédiens. C'était au fond de me dire, voilà, ça va être un thriller intelligent, qui permet de faire résonner du sens en dessous, et l'idée leur était venue sur la base d'un fait divers qui a eu lieu au Kazakhstan. Voilà.
Qu'est-ce qui t'a séduit, Philippe, du coup, dans cette aventure, toi?
Bah, déjà, quand on entend Pierre nous raconter l'histoire, j'étais séduit déjà dans la manière dont il m'a parlé de ce script formidable, avec toute cette ambition incroyable. Il y avait beaucoup de spectacles, beaucoup de thrillers, beaucoup d'épis. Moi, ce qui m'a séduit, c'est tous les personnages m'intéressaient, et de pouvoir trouver les acteurs et les actrices qui allaient incarner tous ces personnages riches. Voilà, ça m'a séduit. J'ai saisi immédiatement l'opportunité de ce projet très ambitieux, et voilà.
Moi, ce que j'aimais aussi dans ce film, c'est que c'est vraiment relativement choral quand même, et que tous les personnages, il n'y a pas vraiment de sous-personnages. Ils ont tous vraiment une particularité, une importance, et évidemment celui du maire. a une importance capitale aussi.
Oui, alors c'est jamais facile de parler d'un film avant que les gens le voient, donc surtout sur un thriller, parce qu'il faut pas trop en dire. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Pierre, le producteur, ce film échappe au film traditionnel, au polar traditionnel de télévision, où le mécanisme très formaté d'une enquête avec des gens, donc des enquêteurs, des flics, et puis un criminel et des victimes, qui est souvent bien fait, parce qu'il faut, comme il y en a beaucoup, il y a des auteurs qui savent écrire ça. En fait, ce qu'il y a dans ce film de plus, c'est qu'on voit des êtres face à leur choix, à leur destin, à leur compromission, à l'appât du gain, et surtout dans un, sur un sujet qui est terriblement d'actualité, puisqu'aujourd'hui le problème de l'énergie chez nous en France et partout dans le monde se pose, et là il est abordé de manière dérivée, je dirais, mais il pose question. Qu'est-ce qu'on fait des déchets industriels? Comment on les élimine? Et surtout, comment des gens se font de l'argent là-dessus? Mon personnage, pour parler de celui que je connais un peu mieux, c'est un homme qui a, je pense, des valeurs humaines, mais qui va être débordé par tout un mécanisme, c'est difficile d'en parler plus que ça.
C'est responsabilité de maire aussi.
Oui, alors, étant maire, effectivement, précisons que c'est un maire d'une ville, donc il a un devoir d'exemplarité, et il va se retrouver dans une situation assez particulière qui le remet face à lui-même, face à des choix, vis-à-vis de ses administrés et vis-à-vis de sa propre famille. Voilà.
On peut spécifier que Flore joue le rôle de ta fille. Ouais. C'est ta fille dans le film, Stéphane.
C'est ma fille. Ils sont dans une espèce de tourmente dans laquelle chacun se reconnaît. Même les flics, Vincent Winterhalter et Aurélien Witt, pour ne citer qu'eux, sont juste parfaits d'humanité. Avant qu'ils portent une arme, avant qu'ils aient un brassard sur le bras, on voit des êtres seuls, des solitaires, des gens qui ont une certaine morale.
Un très beau film, de pas manquer. Un casting incroyable. Ça s'appelle Le Village des Endormis, Lola de Verre. On a Vincent Winterhalter, Aurélien Vic, Flore de Bonaventura qu'on adore évidemment aussi. Une pléiade de comédiens incroyables. On écoute un extrait, on revient juste après avec vous. Le Village des Endormis, c'est cette semaine sur France Télévisions. On écoute.
Inédit, mardi sur France 3.
On a 2 heures de retard sur un fugitif armé, capitaine.
Un meurtrier en cavale. Une population victime d'un mal mystérieux.
Professeur, on a 4 nouveaux cas qui viennent d'arriver.
Et c'est tout un village qui bascule. Lola Devers.
Et votre enquête à vous?
Aurélien Vic.
Bah, j'ai un fugitif dans la nature, un colonel qui est à l'hôpital et un homicide.
Enquête sur les terres sombres du village des endormis.
On continue notre spécial Le Village des endormis. Stéphane Fraisse, Philippe Dajou et Pierre Sportolaro sont avec nous. On va terminer par évoquer vos meilleurs souvenirs de tournage. Je suis sûr qu'il y a bien une anecdote, quelque chose d'assez drôle à nous raconter. On va se tourner vers Philippe pour commencer, parce que souvent c'est pas dernier quand même. À nous raconter des petites anecdotes croustillantes.
Oh non, mais j'en vois pas une en particulier vraiment d'anecdote, parce que c'est tout le film dans sa totalité est un formidable souvenir, encore une fois, comme nous l'a formidablement expliqué Stéphane et Pierre. Chaque séquence était intense. On s'est vraiment mis en émersion comme on doit le faire dans chaque film, mais celui-ci, comme il était intense au niveau scénaristique.
Il y en a une qui était intéressante quand même, et qui au fond résonne avec une idée du film. Philippe a oublié, parce qu'on a tous mis ça dans un coin de notre tête, c'était le déni. Première journée de tournage, séquence très intense où Flore Bonaventura discute avec Anne Conti, donc avec sa mère. Il y a un travelling très lent de Philippe, elle parle toutes les deux. C'est là où la mère fait dire à sa fille, oui, il y a un problème avec mon mec, quoi, ça va pas, maman, tu vois, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un plan très beau derrière, il y a la baie vitrée qui ouvre sur le domaine du maire. On tourne tout ça, pop, on plie bagage, terminé, tout le monde content, première journée de tournage, etc. Quelques minutes plus tard, enfin, on avait tout cassé, les mecs de Lille, géniaux. D'ailleurs, on a tourné avec l'équipe technique de France Télé, tu vois, les mecs en bas, on fumait les clopes, là, tout le monde content, ouais, génial. D'un coup, t'as le coup de fil qui vient, les mecs qui nous disent, les gars, y a rien à l'image et au son, c'est pas recordé. La séquence avec putain le premier jour, tu vois, tout le monde se dit putain, c'est pas, moi je me dis ok, putain, c'est la main noire sur le film, je me dis il y a un truc, tu vois, c'est la malédiction, Et bon, on a investigué. Heureusement, les comédiens étaient là le lendemain. Donc Philippe, habile comme il est avec son chef-op, ça, il te reboutique le plan de travail. Ça a été retourné le lendemain. Mais j'ai trouvé ça assez beau, tu vois, qui est une espèce d'effacement, quoi. Premier jour, tournage.
Pas que le village qui se sont endormis à caméra avec, du coup.
Il manque la matière. Tu vois, il manquait la matière dans un film un peu magique, mystico-industriel, que tu vois, humain. L'image avait dit disparu, ouais, c'est ça. Bah, bref,
c'est ouais, l'image s'est endormie, comme disait notre camarade. Mais moi, je dirais une chose qui n'a rien à voir avec les anecdotes, puisque moi, je fais que quelques jours sur le film. Mais je me suis dit, pendant que je voyais le film, ce film-là serait joué en langue anglaise par des Américains. Ça fait tous les festivals du monde, ça. Mmh. Non, je te jure, c'est-à-dire que, on se dit souvent, les films français, parce que la langue américaine, l'anglais est porteur quand même de quelque chose d'étrange qui va bien avec le cinéma, qui va bien avec le polar aussi d'ailleurs. Et là, je trouve, comme c'est joué et comme c'est dit dans notre langue, il y a quelque chose qui a la grâce des grands films américains.
Et quel doublé de vendre.
C'est d'accord, ce film est un chef-d'œuvre.
Nos tarifs sont pas des loges. Non, c'est vrai, c'est un très joli film que vous allez pouvoir découvrir. On le rappelle, ça s'appelle Le Village des Endormis. C'est diffusé cette semaine. C'est un très beau cadeau de nous fait France Télévisions avec ce film qui sort un peu des sentiers battus. Vous allez voir. En tout cas, on rappelle un petit peu le casting, mais il y a du très très beau monde. Flore Bonaventura, Lola Devers, Stéphane Fraisse, et évidemment, qui est avec nous, et plein d'autres mondes avec Vincent Winterhalter, Aurélien Wick. Franchement, il y a du monde. Hein. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Un bonheur.
Merci beaucoup.
Je me suis même pas endormi.
Merci, merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Prométhée, c'est votre série en ce moment sur TF1 que vous pouvez suivre. Et on continue à mettre à l'honneur cette série avec Marie-Josée Croze cette semaine, qui est notre invitée, qui joue le rôle de Caroline. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ça nous fait plaisir de vous avoir parce qu'on a eu l'occasion de vous voir dans Mirage, qu'on avait adoré d'ailleurs et qu'on avait promotionné avec vous sur France 2. Et là on découvre une série à mi-chemin entre le thriller, le surnaturel. On explore plein de facettes et de genres différents dans cette série. C'est ce qui vous a plu ?
Oui, c'est très bien construit, c'est très original. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui m'ont plu. Hein. Moi, j'étais très intéressée par le fait de jouer avec Fantine, qui est une actrice qui a joué dans des films malgré son très jeune âge. Elle a quand même fait beaucoup de choses. Et je savais que j'avais beaucoup de scènes avec elle, et donc c'était important que ce soit une super actrice. Donc ça m'a motivée. Le réalisateur Christophe Campos, il est aussi un très bon directeur d'acteur. Et donc je savais que j'étais bien entourée et que le projet était un projet intéressant parce que différent. Voilà.
Oui, c'est vrai, intéressant parce que différent, parce qu'on a vu les deux premiers épisodes la semaine dernière, justement, et on y suit le parcours de Prométhée. Ça démarre comme ça, d'ailleurs, hein, l'histoire, où en pleine nuit, elle se fait renverser par votre personnage et celui de Thomas Jouenet, qui joue votre mari, et elle n'a aucune égratignure. Elle se souvient de rien, sauf de son prénom, Prométhée, et il va se trouver qu'effectivement, elle va se trouver reliée par des visions et des pouvoirs en quelque sorte. C'est ça qu'on explore, c'est vraiment tout le côté surnaturel de l'histoire. Puis c'est aussi une histoire d'ado aussi, hein, dans ce mélange. Hein.
Oui, bah il y a beaucoup de choses dans cette série. C'est compliqué de la résumer parce que on peut s'intéresser, par exemple, à la problématique des adolescents, leurs histoires d'amour, leurs histoires de possessivité. Aymeric, qui joue mon fils, ne s'est pas remis de la mort de sa sœur, qui est ma fille, et qui est morte dans un accident de scooter. On le découvre dans le premier épisode que mon personnage est une femme qui est vraiment entamée, qui est meurtrie, et qui a du mal à s'en sortir, quoi, de
ça. Parce que votre couple a perdu, voilà, ça, il faut le spécifier aussi pour ceux qui n'ont pas vu les deux premiers, mais que votre couple a perdu leur fille.
Elle est morte deux ans plus tôt, donc elle a eu le temps, Caroline, de s'en remettre, mais c'est quelqu'un qui fait un travail sur elle, qui est en lutte perpétuelle pour se sortir de ce cauchemar, quoi. Et dans l'épisode numéro 2, je crois, on a découvert par exemple que... Non, dans le premier épisode, on découvre que la chambre de la gamine est toujours actuelle, quoi, dans la maison. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et le fils, le frère, donc, il n'est pas remis, lui non plus, quoi. C'est des tragédies grecques, ces trucs-là. C'est horrible de perdre une enfant de 15 ans, quoi. Donc Prométhée, elle cristallise tellement de choses pour Caroline. Il y a cet antagonisme entre le mystère qu'elle suscite par le fait qu'elle se souvienne de rien, le fait qu'il va se passer... des choses fantastiques, et en même temps elle lui rappelle sa fille, et c'est ça qui est paradoxal. En très peu de temps, finalement, elles se sont plus proches de cette personne qu'elles connaissaient pas.
Une sorte de transfert.
il y a un transfert total. Et c'est là où pour moi c'était intéressant à jouer cette blessure là, quoi. J'ai voulu vraiment qu'on explore ça. Je dirais que c'est le plus important pour moi. C'est, enfin, quand je travaille un personnage, c'est d'arriver à y trouver une certaine mission, quoi. C'est-à-dire que quand j'accepte un personnage, je me dis qu'est-ce que moi je peux apporter de plus que quelqu'un d'autre. Si j'ai pas la réponse à ça, je le fais pas. Je laisse le rôle passer. Donc à titre personnel, moi c'est ce qui m'a intéressé. Après le public il verra midi à sa porte, quoi. Je veux dire, chacun, c'est une série en fait qui a tellement d'aspects, quoi. Ça va de la tragédie grecque à les trucs très quotidiens, l'histoire d'amourette entre ados, un couple qui est complètement détruit, une flic avec sa sœur qu'elle élève. Voilà, on sait pas tout de tous ces personnages, mais ils sont tous très intéressants, quoi. La psy, puis comme c'est un thriller, je peux pas vous en dire plus parce que je risque après d'entamer votre plaisir à découvrir la série. Donc
mais surtout que les deux derniers épisodes vont être apparemment ça va être l'apothéose, hein. On va découvrir beaucoup de choses. On a eu l'occasion de voir la série il y a quelques semaines au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, et le réalisateur disait, et encore la semaine dernière dans notre émission avec Fantine, que c'était pas forcément bouclé, qu'il y avait une fin très très ouverte. En tout cas, s'il y a une suite, vous avez envie de rendosser Caroline?
Ah oui.
Une saison 2.
Parce que s'il y a une suite, je fais confiance aux auteurs, et je pense que maintenant on s'est rencontrés tous, enfin on a tous proposé quelque chose, et après ça va, il y aura je pense il y aura quelque chose d'organique qui va se faire, et ce serait intéressant, quoi, de faire une suite. Moi je trouve que c'est intéressant toujours d'approfondir les choses. C'est ce que j'aime dans la série par rapport au cinéma, c'est la possibilité d'approfondir et de vraiment aller
sur la durée.
Sur la durée, voilà. Donc si vous me dites qu'il y a une saison 2, moi je fonce, bien sûr, bien sûr.
Marie-Josée, vous disiez au Festival de la Fiction, d'ailleurs, avoir travaillé beaucoup le personnage de Caroline à l'instinct aussi, au moment présent. Ouais. Pour vous, ce qui est important quand vous jouez vos personnages, c'est vraiment le moment présent, quand ça tourne.
Ah oui, je théorise pas, je déteste raconter ce que je vais faire, je le fais. J'ai mes secrets, j'ai mes envies, j'ai des choses qui me traversent l'esprit où je me dis ça c'est intéressant. Je peux en glisser un mot au réalisateur, mais en général je le fais et après je lui explique, parce que c'est important de le dire après ce qu'on a fait, parce qu'après quand il rentre lui en montage, ou alors pour même le lendemain ou le jour d'après, qu'on soit sur la même longueur d'onde.
Bon, merci en tout cas de nous avoir parlé de Caroline. On va découvrir la suite de Prométhée sur TF1, la série événement du moment. Les projets pour 2023, Marie-Josée, en cinéma, télévision, théâtre peut-être?
Oui, bah alors là en 2023, là déjà j'arrive du Brésil où j'ai tourné un film là-bas, un film totalement brésilien, où j'ai joué un personnage français, mais quand même qui parle un peu portugais, donc j'ai dû jouer en portugais, c'était très marrant. Et là je vais faire le film d'Ivan Attal, où je joue sa femme et joue donc mon mari, et avec Guillaume Canet et Maïwenn, et c'est un film original qu'il a écrit, voilà.
On aura l'occasion de voir fin 2023 certainement du coup au cinéma.
Bah oui, j'espère.
Merci Marie-Josée Croze d'avoir été avec nous. Prométhée, la suite, c'est sur TF1 que ça se passe. Et on se dit à bientôt.
À bientôt.
Ça va? T'as pas l'air bien.
Si, ça va.
C'est à cause de la rentrée?
Non, c'est juste un peu le trac, c'est tout.
C'est normal. Tu vas voir, ça va bien se passer. Tous les profs sont au courant de ta situation. Et puis pour les cours, t'as largement le niveau. Je sais pas où t'étais scolarisée, mais j'aimerais bien que mes élèves en sachent autant que toi, crois-moi. Si t'as le moindre problème, mon bureau sera toujours ouvert.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Et de retour dans Chut, on écoute la télé avec notre invité d'honneur aujourd'hui, Stéphane Plaza, qui nous rejoint. Merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Mon cher Stéphane, en tout cas, il y a plein d'émissions. Et ça c'est chouette, maison à vendre, rénovation surprise, il y a du théâtre, il y a une actualité, mais hyper riche, mine de rien.
Bah oui, bah on essaie de s'organiser pour faire des belles choses. Et là, le nouveau concept, c'est rénovation surprise, où pour une fois, on donne la part belle aux locataires. Donc c'est une émission 100% française. 2013, une création, puisque j'en ai eu l'idée. Après, j'ai été voir donc un producteur autre pour faire une coproduction, parce qu'on peut pas tout gérer dans la vie. Et avec Emmanuel Rivassou, donc on a donné un petit peu des astuces et surtout changé la vie de famille de certaines personnes, les quatre, en tout cas quatre familles. Et on a fait participer les enfants pour avoir un peu de couleur, un peu de rose, un peu de bleu, un peu de licorne, pour montrer que dans une décoration, on n'est pas obligé de faire du beige, on peut aussi faire autre chose quand on ne vend pas. C'est important. Et puis changer un petit peu leur aspect, s'il leur manquait une pièce, essayer de créer un autre volume, un espace pour le travail ou une autre chambre. En tout cas, on a essayé de proposer et de diviser les volumes.
En plus, c'est vrai que d'habitude, tu t'adresses beaucoup plus aux propriétaires. Là, c'est les locataires qui sont un peu les stars, justement, du programme.
Bah, en fait, l'intérêt pour moi, c'était de créer une nouvelle émission avec des interviews complètement différentes où je ne venais pas pour vendre. Donc, je ne faisais pas une expertise immobilière, mais je donnais une plus-value quand même à l'appartement par rapport aux travaux. Mais on pouvait se permettre plus de couleurs, plus de folie un petit peu. Et puis surtout, redonner un petit peu de peps à une famille qu'on avait besoin et de faire une 100% surprise à un membre de la famille qui n'était pas au courant de ces transformations. Et c'est souvent des gens un peu, enfin on espère en tout cas méritants ou qu'on essayait de leur récompenser parce que bah, ils nous avaient touchés un petit peu.
Mais en tout cas ça marche bien à l'écran, ils ont l'air vraiment heureux justement de ces transformations. Alors il y a Maison à vendre aussi évidemment, ça c'est une émission maintenant emblématique d'M6, ça cartonne toujours autant.
Bah, on a de la chance d'être dans le monde du réel, c'est des émissions qui suivent un petit peu l'actualité, qui suivent aussi l'immobilier, qui n'est pas toujours simple avec des diagnostics, des lois qui changent. Maison à vendre, c'est le mix entre l'immobilier et aussi des transformations un petit peu, parce que je suis bien aidé avec mes décoratrices et donc on essaye de toujours d'innover, de moderniser, de ne pas rester sur ses acquis, que ça soit en termes d'image, de caméra ou même par rapport aux lois, on essaie de trouver un petit peu des choses pour essayer d'aider des personnes qui sont un petit peu dans la panade.
Tu manques pas d'idées. Est-ce que tu en as encore pour pouvoir justement, avec Rénovation Surprise, c'est aussi une autre manière d'approcher l'immobilier, la décoration, etc. Est-ce que tu as encore des idées que tu as envie de soumettre et qui risquent d'arriver peut-être bientôt à l'antenne?
Alors, c'est très très rare que je produise un programme, hein, parce que là c'était vraiment parce que je voulais donner la part belle aux enfants et aux familles locataires, parce que souvent, on s'adresse pas à eux dans mes émissions, donc c'est pour ça que j'ai plutôt creusé les choses, sinon je laisse les choses faire. Après, oui, il y a des nouvelles émissions qui vont arriver, mais où je ne produis pas forcément. Là, je me laisse guider tel un instrument où je donne une expertise immobilière. Ce que j'aime, moi, en tout cas, c'est dans le réel, dans le live, et garder des séquences qui sont naturelles.
Alors, on a eu l'occasion de te découvrir en tant que comédien dans de la fiction. Maintenant, c'est au théâtre également que tu t'illustres. Ça sera au Bouffe Parisien, d'ailleurs, jusqu'au 25 juin prochain, dès le 31 mars. Vous pouvez réserver déjà vos places, d'ailleurs. Et un couple magique avec Jean-Philippe Janssen, franchement, va encore nous amuser pendant quelques mois. C'est en tournée, d'ailleurs, partout en France pour ce printemps aussi.
Oui, on revient en fait terminé pour là on va être à 200 représentations et on va revenir pour 63 dates exceptionnelles avec sans doute des guests parce que c'est les tours de magie, les 63 dernières avec Jean-Philippe Janssen, Valérie Mérès, c'est quand même mis en scène par Jean-Luc Moreau, donc il y a beaucoup de magie, beaucoup de folie, on rigole beaucoup et c'est des vrais tours et tant mieux parce que le public est là puisqu'on a fait des zéniths et c'est quand même très rare pour un boulevard, on a fait du 2000, 2500, même 2700, 2009. Donc les gens ont besoin de rire, se déplacent encore quand on leur apporte des choses un peu innovantes. En tout cas, pour nous, on prend beaucoup de plaisir sur scène. On fait aussi de l'impro, mais on respecte surtout la mise en scène de Jean-Luc Moreau.
Il doit y avoir des moments incroyables avec Jean-Philippe sur scène, non? Il doit y avoir des moments d'impro, je suis sûr, entre vous, non, qui doivent être jouissifs.
Bah, non, si on est très sérieux, comme on joue un boulevard qui est quand même qui va à 100 à l'heure, on se connaît par cœur, mais il faut surtout qu'on respecte la mise en scène. Quand on voit le spectacle, on se dit il y a beaucoup d'impro, mais en fait non, tout est pratiquement calculé,
tout est millimétré.
Il y a que 1% d'impro parce que ça va très vite, mais en revanche l'illusion est là et il y a les vrais tours de magie. Mais on peut pas se permettre de faire un show tous les deux déjà parce que il y a d'autres comédiens, puis il y a une mise en scène, il y a aussi une pièce qui a été écrite par Laurent Ruquier, et il faudrait pas qu'on déborde et qu'on change tout. Là on est vraiment pris pour des rôles d'acteurs, donc on a beaucoup bossé. En revanche, oui, en coulisses, en dehors et tout ça, il y a une folie parce que c'est mon meilleur ami et tout, voilà. Mais sur scène, on est plutôt très 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 sérieux pour justement faire rire le public.
T'aimerais refaire de la fiction aussi?
C'est prévu. Il y a Meurtre à Figeac a très bien passé. Il y a deux projets avec M6 aussi et une autre chaîne. En tout cas, j'attends qu'on propose des choses. Là, je tourne quelque chose un peu avec Éric Lavenne, donc ça se passe plutôt bien.
Ah oui, c'est plutôt pas mal. Un grand réalisateur de cinéma aussi, Éric. Une émission que souvent les téléspectateurs aimeraient peut-être voir, c'est Chasseurs d'appart.
Bah, chasseur d'appart, oui, mais il va y avoir une quotidienne qui revient, une nouvelle émission qui va arriver sans doute. On attend la date, je suis en train de la tourner, qui est peut-être le pendant en tout cas de chasseur d'appart, où il y a les agents immobiliers avec un changement de vie. Donc la quotidienne va être là d'ici 15 jours, 3 semaines, devrait arriver à l'antenne.
Ça va s'appeler ?
Je ne sais pas encore le titre, car ce n'est pas moi qui fais le titre. Je peux vous dire que Stéphane Plaza est dedans. Et il a plus de travail que dans Chasseur, parce qu'il fait les rencontres, il est plus sur le terrain, parce que vraiment, moi, mon kiff, c'est vraiment d'aider les gens, bien sûr, mais d'être là et présent pour essayer de les aiguiller. En tout cas, il y a beaucoup de ventes sur ce que j'ai vu et tout ça, parce qu'on essaie de travailler différemment. On a fait évoluer un peu Chasseur. Ça ne veut pas dire que Chasseur ne reviendra pas. Ça veut dire que là, il y a une quotidienne qui va arriver, je pense, début mars.
Alors Stéphane, beaucoup d'agences, Stéphane Plaza aujourd'hui, c'est devenu une des agences numéro un dans le cœur des Français, avec un ton, avec une approche totalement différente, pensée, des équipes dynamiques, jeunes, qui sont souvent partenaires de nos émissions, nous, justement, sur les secteurs. J'embrasse au passage Julien à Périgueux, aussi à Brive-la-Gaillarde, à Libourne, également toutes les équipes de Libourne, de Coutras, de Royan, de Rochefort, de Sainte. C'est des agences qui nous accompagnent, nous, au quotidien, pour nos émissions, et on sent vraiment un véritable affect d'une à la marque que tu as créée, mais aussi une équipe complètement dévouée à leurs clients.
En tout cas, c'est on a la chance d'avoir un réseau qui est incarné, et je leur dis toujours qu'il faut avoir 20% de Stéphane Plaza et le reste à eux. Donc c'est aussi leur marque. Ils sont plutôt là pour travailler pour l'humain, en transparence, et essayer de faire évoluer les choses. En tout cas, c'est un projet de vie. On fait de la co-construction avec les clients qui viennent nous voir, que ça soit pour acheter ou louer. Donc oui, je suis plutôt fier de mes équipes sur le terrain. Et tant mieux, puisque cette année on a eu la marque de l'année, le réseau de l'année et l'agence de l'année. Donc ça veut dire que c'est eux qui travaillent très très bien, peut-être plus que leur grand patron, mais en tout cas j'ai une certaine fierté à les voir travailler, et surtout aussi investi et aussi intransigeant avec leurs horaires.
C'est pour toi la rançon du succès, tout ça, justement, qui fait qu'aujourd'hui c'est une marque qui n'existait pas, il faut quand même l'avouer, il y a 5 ou 6 ans, qui est montée très très vite en puissance,
oui.
Et qui a eu un succès immédiat.
En fait, on a 710 agences en 8 ans. Je pense pas que ça soit la rançon du succès. Je pense que c'est la rançon d'une marque à une ADN qui motive les gens, et surtout qui a travaillé un peu différent. Depuis 20 ans, il n'y avait pas eu d'autres réseaux, et les gens sont motivés. C'est aussi donner la part belle aux investisseurs, aux managers, aux responsables et aux gens qui travaillent aussi, indépendants ou pas. Je leur laisse aussi une place dans cette marque. Donc je pense qu'ils l'ont bien compris. Ils la poussent très très haut. Tant mieux, parce que en fait, on est une équipe, il n'y a pas que Stéphane Plaza, il y a eux aussi qui sont aussi sur le terrain et qui travaillent très dur, parce que c'est facile pour personne.
Bon, on te retrouve en tout cas dans un couple magique, oui. Sur scène avec Jean-Phi, on te retrouve bientôt dans une nouvelle émission sur M6 en quotidienne. Rénovation surprise continue,
bien sûr.
Maison à vendre évidemment continue aussi, t'es bien occupé, merci en tout cas Stéphane de nous avoir accordé ces quelques minutes avec nous.
Merci à vous, merci à toi.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le plaisir de fêter les 10 ans de Léo Mathé avec Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre qui seront nos invités. Nous aurons le plaisir de recevoir également pour la sortie du film Les Complices, la réalisatrice Cécilia Rouault, accompagnée de François Damiens, Laura Felpin et William Legbill, qui a décroché d'ailleurs le prix d'interprétation au Festival de l'Alpe d'Huez. On aura également le plaisir de parler du retour de Je te promets avec Aline Panel et Brigitte Bémol.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com, et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Sainte à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Orcharente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.